Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, émission consacrée tout au long de l'été à la question des ovnis. La semaine dernière, je recevais Manuel Virotte, historien, pour la publication de sa thèse de doctorat aux éditions Le Temps Présent. Il s'agit d'une histoire de l'ufologie française, OVNI sur la France des années 40 à nos jours, une histoire de la recherche. Nous poursuivons l'entretien avec Manuel Virotte. Manuel Virotte évoque la question du traitement médiatique de la problématique des ovnis. Le discours médiatique a-t-il changé depuis 1940 au sujet des soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque? Eh bien, nous allons le voir sans plus tarder.
Alors, il semblerait qu'en 1954, donc bien qu'il y ait eu des discours assez objectifs dans la presse régionale et la presse nationale, le discours dominant, hein, d'après ce qu'on peut lire sous la plume de René Fouéré, sous celle de Joël Ménard, qui était encore un peu jeune à l'époque, mais bon, c'est essentiellement ce que dit René Fouéré, le discours était assez critique, moqueur envers la question, et que les choses aient évolué. Dans les années 70, toujours d'après Fouéré et Ménard, le discours dominant était beaucoup plus objectif, apparemment. Et ça, c'est notamment dû à l'action de journalistes très connus, comme Jean-Claude Bourret, hein, qui avait des émissions sur France Inter. Donc on a là, plus d'objectivité, un peu plus de sérieux dans la considération du problème. Plus tard, bon, là, on a aussi un discours assez moqueur à la télévision. À la télévision, donc, là, c'est Robert Roussel qui le dit, hein, le journaliste Robert Roussel. Donc là, du fait du traitement spécifique par la télévision, on a là l'usage de raccourcis, et donc c'est souvent un ton assez moqueur, notamment pour se protéger d'éventuels canulars. Mais là, avec l'émergence de chaînes assez récentes, hein, sur la TNT et tout ça, on a par contre un discours qui se veut un peu plus rationnel, un peu plus objectif, et peut-être un peu moins plaisantin sur la question. Ouais. Voilà, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment étudié sous cet angle le problème, donc je peux pas vous dire avec certitude les évolutions du regard de la presse et des médias sur la question.
Ouais. Et on n'a pas non plus, j'imagine, les moyens de mesurer les réactions du public. Est-ce que la société globalement est plus favorable à l'étude des ovnis maintenant qu'il y a 50 ans? On le sait pas, ça non plus, j'imagine.
Bon, il y a quelques sondages qui sont parus, qui paraissent aux États-Unis dans les années 70, dans les années 80. Bon, ça reste toujours, ça évolue, hein, si vous voulez. Il n'y a pas une tendance qui se dégage ou une évolution qui se dégage très nette. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je ne peux pas vous dire le pourcentage exact, hein, pensent et croient en une vie extraterrestre. Beaucoup de scientifiques, la plupart, hein, estiment qu'une vie extraterrestre est possible, mais elle est très éloignée de nous. Et elle pourrait en aucun cas, le discours dominant de la science, elle ne pourrait en aucun cas parvenir jusqu'à nous à cause des distances interstellaires, etc. L'argument classique des scientifiques, hein, pour expliquer cette impossibilité d'une présence extraterrestre sur notre planète. Voilà, mais je voulais juste dire autre chose à propos du discours des médias, c'est que les médias se sont souvent révélés assez frileux pour aborder à bras-le-corps le problème, hormis Jean-Claude Bourret, hein, en raison de canulars, hein, de canulars qui ont détruit des réputations. Par exemple, on connaît tous le canular qui a affecté Jacques Pradel en 1995, quand il présente le film de ce qu'on a présenté comme l'autopsie de Roswell.
Oui.
Donc là, un film spectaculaire diffusé sur toutes les chaînes du monde entier, donc la dissection du cadavre de Roswell, qui n'était pas du tout le cadavre de Roswell, en tout cas ça n'avait pas été présenté tel quel, mais les médias l'ont présenté tel quel. Et quelques jours après, on se rend compte que c'est un canular. Et donc, la réputation de Jacques Pradel en a été détruite. Et il a eu beaucoup de mal à se relever de ça. Et donc, ça a incité de nombreux journalistes à prendre leur distance avec ce problème. On avait eu la même chose avec François de Closet, hein, je crois que c'était en 1974 ou 1977, je ne sais plus, avec le faux film d'un ovni sur les Vosges. Donc pareil, il avait présenté un ovni, un film qui avait été pris par un caméraman et qui s'est avéré être un canular. Et là aussi, François de Closet, définitivement, on avait terminé avec le problème ovni, ne voulait plus en entendre parler. Donc voilà, ça effraie un petit peu, à juste titre d'ailleurs, hein, ça effraie un petit peu la presse, les médias, les journalistes. Et donc, ce qui explique que souvent, le problème soit traité avec dérision, de manière à pouvoir se couvrir en cas d'un canular.
Ouais. J'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on peut imaginer des canulars commandités? C'est un peu ce qui est développé dans le livre de François Parmentier, OVNI 60 ans de désinformation, au nom de désinformation amplifiante, c'est-à-dire qu'on crée un événement extraordinaire, qu'on livre en pâture à la presse et au public, et puis finalement, on apporte une réponse tout à fait rationnelle, un mois, deux mois plus tard.
Oui, et c'est ce que je développe assez abondamment dans ma thèse également. Je cite largement François Parmentier et son très bon ouvrage. Effectivement, d'après lui, et c'est tout à fait logique, c'est une technique de désinformation. Donc là, ce qui est curieux dans le cas de 1995 avec la dissection du cadavre de Roswell, c'est qu'on avait, au même moment, hein, ça avait commencé une année auparavant, on avait une enquête sur ce qui s'était passé à Roswell, donc le General Accounting Office, donc le GAO, la Cour des comptes américaine, si vous voulez, enquêtait à la demande du sénateur ou du député Schiff du Nouveau-Mexique, ou d'Arizona, je ne sais plus trop, et sur ce qui s'était passé à Roswell. Et subitement, donc dans la foulée, on a ce film qui surgit sur les télés du monde entier, et d'après donc de nombreux ufologues, notamment Jacques Ménard dans Lumière dans la nuit, ça a complètement occulté l'action du GAO, et c'est totalement passé sous silence dans les médias américains. Donc là, on a une coïncidence troublante, hein, de canulars qui affecte la recherche ou les enquêtes sur le phénomène, ouais, ce qu'en connaissent les Américains et l'armée américaine. Ouais.
Alors, une partie de votre livre est consacrée aux différentes hypothèses qui ont été échafaudées par les ufologues pour tenter de trouver une explication à ces apparitions étranges. On pourrait peut-être évoquer les trois principales. Il y a l'hypothèse extraterrestre qui continue d'avoir les faveurs d'un grand nombre d'ufologues à travers le monde. L'hypothèse magonienne développée par Jacques Vallée et d'autres depuis, des épigones. Et puis pour finir, l'hypothèse socio-psychologique qui s'est développée à partir des années 80 et qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi de venin, hein, Manuel Virotte. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots de ces hypothèses, différentes hypothèses?
Oui, alors l'hypothèse extraterrestre, hein, bon an mal an, elle continue, après avoir été un petit peu affaiblie, effectivement, à la fin des années 70 et dans les années 80, elle continue d'être l'hypothèse dominante privilégié par les ufologues. Bon, ça on peut le voir, hein, si on fait, et là on peut le faire de manière tout à fait scientifique, l'inventaire des livres ufologiques et de leur position dominante, là on le constate. Hein, on a par exemple deux bibliographies, on a celle de Didier Charnay et François Hayes sur une assez grosse bibliographie sur tout ce qui est paru en langue française, et on a bien évidemment celle de Claude Mauger qui est paru notamment dans l'ouvrage relié, le coffret de phénomènes spatiaux, là, paru chez Trédaniel. Donc là, on voit que l'hypothèse extraterrestre est privilégiée, et notamment jusque dans l'armée, jusque dans les milieux scientifiques, notamment avec le rapport Cometa. Hein, dans le rapport Cometa, comité d'études approfondies, hein, qui est une association privée, hein, mais on va dire dirigé par des militaires, notamment le général Denis Letty,
que nous avons reçu ici, oui.
L'association est dans son rapport faisait ouvertement mention de l'hypothèse extraterrestre comme étant très sérieusement envisageable. Donc une manière de dire les choses sans trop en dire. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse qui a toujours été privilégiée par les ufologues. Ensuite, on a les hypothèses paranormales, dont l'hypothèse magonienne, hein, de Jacques Vallée. Donc là, effectivement, Jacques Vallée ne remet pas en cause l'hypothèse extraterrestre. Il dit qu'elle est possible, mais il dit qu'elle s'accompagne aussi d'autres hypothèses tout à fait aussi envisageables, comme l'hypothèse magonienne. Donc le siège de l'intelligence des phénomènes, ou d'une partie des phénomènes qu'on verrait, se trouverait dans une autre dimension, une dimension invisible, où serait le siège de la magonie et d'où viendraient ces apparitions. Bon, là, c'est très compliqué. Et la critique majeure que font les ufologues à cette hypothèse est le fait qu'on ne veut pas expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, les extraterrestres ou les ovnis, par quelque chose qu'on comprend encore moins. Et donc, effectivement, c'est un argument tout à fait recevable. Donc, ça, c'est René Fouéré qui le formule dans Phénomènes spatiaux. Il y a aussi donc l'hypothèse, dans les hypothèses paranormales, on a aussi l'hypothèse parapsychologique. Donc là, et là aussi, Jacques Vallée la développe assez abondamment hein, dans Science interdite. Donc là, voilà, les, si vous voulez, ce serait des phénomènes engendrés par les hommes. Hein, ce que développe un peu Carl Jung aussi dans son ouvrage, hein, donc une projection de la psyché humaine. Voilà, donc, mais bon, tout ça, ça reste très peu étayé hein, par des arguments scientifiques. Et enfin, on a l'hypothèse socio-psychologique ou l'HSP, qui donc a émergé à la fin des années 70 avec Michel Monnery, hein, donc qui était un responsable de LDLN, et qui a publié « Et si les ovnis n'existaient pas ?» et « Le naufrage des extraterrestres » dans lesquels il remet en cause radicalement l'hypothèse extraterrestre. Il parle de méprise, il parle de canular, des choses comme ça. On a eu Bartel et Brucker aussi qui ont publié La Grande Peur Martienne, et puis dans les années 80, donc un certain nombre d'ufologues se sont ralliés à cette hypothèse, comme Thierry Pinvidic notamment. L'hypothèse psychologique donc estime que la plupart des observations, si ce n'est toutes les observations, sont dues à des méprises, à des erreurs d'interprétation, à des canulars, à des facteurs psychiatriques, des choses comme ça.
Alors, c'est intéressant ce passage de votre livre où il y a comme ça cette espèce de revirement, on va dire, à la fin des années 70, début années 80, et le développement de la sociopsychologie, puisque des gens comme Michel Monnery étaient à l'origine des chercheurs tout à fait favorables à l'hypothèse extraterrestre. Et on a le sentiment d'un épuisement à ce moment-là, peut-être, de certains chercheurs qui se disent « mince, tirons un trait là-dessus, on ne peut pas en tirer grand-chose ».
Oui, alors c'est vraiment l'état d'esprit. Un petit peu comme si tous les espoirs, disons, avaient été refroidis. Et on a cet état d'esprit chez Aimé Michel, qui à la fin des années 70, on a l'impression qu'il n'en peut plus, qu'il a passé une majeure partie de son temps à étudier ça. Chez certains membres du CVLDLN aussi, on le retrouve dans leur correspondance. Ils racontent donc tout leur loisir face à ça, ça dévore tout leur loisir, et ils abandonnent. Et en fait, comme l'a dit Aimé Michel, l'état d'esprit, un petit peu, c'est qu'au bout de décennies de recherche, les résultats auxquels sont parvenus les ufologues tiendraient sur un timbre-poste. Bon, voilà, c'était un jugement un peu sévère, mais voilà, ça montre un peu l'état d'esprit. Et donc, beaucoup se tournent vers des hypothèses alternatives. Donc, Michel Monnery, lui, il avait mis en place le RESUFO. Bon, c'était les observateurs du ciel hein, qui mettaient en place des nuits d'observation, qui photographiaient le ciel. Et donc, d'après Pierre Lagrange, hein, dans sa thèse... Sur les ovnis aussi, dont le titre m'échappe, lui aussi, et les piètres résultats obtenus qui ont conduit Michel Monnery, à changer son fusil d'épaule et à envisager une autre hypothèse. Mais donc, ce retournement de tendance de certains acteurs majeurs, hein, on pourrait presque dire ce retournement de veste, eh bien, ça conduit, si vous voulez, beaucoup de gens à remettre en cause leur vision des choses. Joël Ménard, par exemple, il m'a raconté, donc, et Pierre Guérin aussi, je crois, l'a raconté, ils étaient extrêmement découragés à la lecture de ces livres et ils se sont posé la question de savoir s'ils n'avaient pas complètement perdu les pédales, s'ils n'étaient pas complètement trompés, fourvoyés. Et donc après quelques semaines, quelques mois d'abattement, bon, ils ont repris les choses, ils ont remis les choses bien à plat et ils se sont rendus compte que non, on pouvait pas tout jeter aux orties, on pouvait pas passer sous silence les témoignages multiples, les millions de témoignages, les photographies, les enregistrements radar, etc., etc. Et donc l'hypothèse extraterrestre est maintenue et aujourd'hui on peut dire que bon, par rapport à l'hypothèse socio-psychologique qui est en perte de vitesse, l'hypothèse extraterrestre reste toujours plus ou moins l'hypothèse privilégiée.
Ouais. Alors, il y a un épisode qui est très intéressant d'ailleurs, c'est celui du livre, vous l'avez mentionné, de Bartel et Brucker, La Grande Peur Martienne, qui revenait sur la vague de 1954 dont on a parlé en début d'émission. Une enquête de Bartel et Brucker essayant de prouver qu'il ne s'était finalement rien passé, c'était un tissu de bêtises en 1954, et c'est ce livre, je crois précisément, qui a totalement démoralisé Joël Ménard. jusqu'à ce qu'ils réalisent, je crois, des contre-enquêtes avec d'autres, et ils sont aperçus que le livre de Barthel et Brucker manquait totalement, lui, de rigueur journalistique.
Oui. Alors moi, je ne l'ai pas lu, hein, je vous le dis tout de suite, le livre de Barthel et Brucker. Par contre, ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'était une enquête qui a été menée largement par téléphone. Effectivement, par téléphone, avec des raccourcis rapides, d'après ce que j'ai pu lire sur la question. Et donc, effectivement, la rigueur prônée par les deux auteurs ne l'adaptaient pas à eux-mêmes. Donc c'est ce que leur reprochaient ceux qui ont critiqué le livre. Voilà, mais je l'ai pas lu, moi, donc j'ai pas trop d'avis sur la question.
Ouais. Alors, il est à noter que cette hypothèse sociopsychologique, il y a eu un mouvement inverse depuis quelques années, un sociopsychologue comme Pierre Lagrange, qui a été très très important dans le débat ufologique dans les années 80-90, revient plus ou moins, ou en tout cas n'exclut plus du tout l'hypothèse extraterrestre.
Oui, et alors il faut lire sa thèse, parce que dans sa thèse, et d'ailleurs j'étais très surpris de trouver une telle conclusion, dans sa thèse, il dit à un moment, je ne sais pas si c'est en conclusion, il y a si peu de résultats, si l'ufologie n'a pas eu les résultats escomptés, ce n'est pas parce que ses méthodes n'étaient pas bonnes, parce qu'il dit au contraire que ses méthodes étaient très bonnes, qu'il avait de très bonnes méthodes, mais c'est surtout parce que l'objet, et il dit exactement, les extraterrestres sont réticents ou sont rétifs à toute forme d'étude. En d'autres termes, disons, agissent de manière à ne pas pouvoir être étudiés, être analysés. Donc c'est ce qu'il dit dans sa thèse. Et effectivement, donc à la lumière de ses paroles et de d'autres écrits suivant sa thèse, on peut constater effectivement qu'il pourrait effectivement y avoir un certain changement chez Pierre Lagrange. Mais en fait, si vous voulez, Pierre Lagrange, si on étudie bien son discours, il ne varie quasiment pas. Pierre Lagrange a toujours été plus ou moins favorable à l'idée d'une possibilité de vie extraterrestre ou de venir en tant que manifestation extraterrestre. Mais c'est sur l'affaire de Roswell et c'est sur les secrets que détiendrait l'armée américaine que là, il ne varie pas. Et en la matière, pour lui, Roswell n'existe pas et l'armée américaine n'a récupéré absolument rien. Là, sur ce point-là, il ne varie pas. Par contre, sur la question OVNI extraterrestre, il reste très ouvert.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu du regard porté par le monde militaire sur les OVNI. Depuis la loi sur la liberté de l'information promulguée en 1978 aux États-Unis, des citoyens américains ont fait pression sur l'armée, mais aussi sur les agences de renseignement pour obtenir la déclassification de certains dossiers sensibles. Souvent, leurs efforts ont été couronnés de succès et ces archives déclassifiées ont permis d'apprendre que des bases militaires secrètes ou discrètes avaient été survolées, visitées par des ovnis. Est-ce que de telles informations ont ouvert de nouvelles perspectives à la recherche? Et là, je pense notamment au livre de Jean-Jacques Velasco, OVNI l'évidence. Alors, Jean-Jacques Velasco, je le précise pour nos auditeurs, fut le directeur du GEPAN, c'est-à-dire de la recherche officielle en France, entre 1983 et 2004. Et dans le livre que je viens de citer, OVNI l'évidence, il explique que de nombreuses observations ont été faites à proximité de sites nucléaires militaires. Et ça, que ce soit aux États-Unis ou en France, notamment au plateau d'Albion, ce qui finalement signifierait que les ovnis surveillent l'activité nucléaire des uns et des autres. Que faut-il en penser, selon vous?
Alors, pour Jean-Jacques Velasco, il y a un lien évident. Il le dit aussi dans Troubles dans le ciel, écrit avec Nicolas Montigiani. Donc, il y a un lien évident entre nucléaire et ovnis. Donc, il le démontre avec des statistiques. Enfin, il le démontre. Il s'efforce de le démontrer avec des statistiques. Et effectivement, il y a eu des survols de bases américaines. De missiles atomiques à la fin des années 60, dans les années 70, avec désactivation des systèmes, tout ça, ça a été rapporté. Donc, il est possible, il n'est pas le seul, Jean-Jacques Velasco, à établir ce lien. Pour beaucoup, on a une irruption du phénomène OVNI à la fin des années 40, justement au moment où l'humanité commence à développer ses armes atomiques. Et pour beaucoup, on peut faire un parallèle entre les deux. Pour ce qui est de la France, alors là, on n'a pas beaucoup d'informations, ou alors elles sont sujettes à caution. Pour ce qui est du plateau d'Albion, il y a Jimmy Guilleux qui en parle, de manière assez, quand même assez étayée. Donc, dans un de ses livres, paru dans les années 80, donc, il racontait qu'avec son groupe, il enquêtait aux abords du plateau d'Albion pour voir s'il s'y passait pas des choses, et qu'il avait recueilli des témoignages de militaires hein, qui étaient stationnés sur la base du plateau d'Albion et qui disaient qu'effectivement, quand on ouvrait un silo, on pouvait avoir dans les 48 heures un ovni qui survolait la base. Et donc Jimmy Guilleux a essayé de monter l'expérience hein, et il a fait la demande au ministère de la Défense. Il reproduit ses courriers hein, qui est dans ce livre il reproduit les réponses donc du ministère de la Défense avec on a le cachet du ministère, on a la signature, on a le nom je crois ou à moins qu'il soit anonymé, je me rappelle plus. Donc effectivement d'après lui, il pourrait passer des choses un peu similaires à ce qu'on a pu voir aux États-Unis par rapport aux missiles atomiques sur le plateau d'Albion.
Ouais.
Mais bon, ça reste Jimmy Guilleux et comme vous savez, Jimmy Guilleux est très discuté.
Et puis, il y a eu quand même tout de même, plus près de nous, il y a 2-3 ans, le survol, donc fameux survol des centrales nucléaires en France par des drones. Cependant, il y a un cas où le directeur de la centrale explique que ce n'était pas un drone, mais un ovni, et où les surveillants de nuit donc de la centrale ont observé, là, un triangle très gros, proche, volant très bas. Hein, donc, il y a quand même... quelques cas quoi, liant activité OVNI et centrale nucléaire en France, semble-t-il.
Sur ces événements récents, je ne me suis pas trop penché sur la question. Donc là, je ne peux pas vous dire, là, sur vraiment ce qui est arrivé récemment en France, je suis mal passé pour en parler, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus.
Ouais.
Mais voilà, donc ce lien, alors ce lien peut être avéré, mais quand même, donc on constate que dans l'histoire d'avant 1947, il y a eu quand même beaucoup de disons de manifestations étranges rapportées dans la presse, rapportées sur différents supports. Donc beaucoup d'ufologues estiment que le phénomène en fait n'est pas là que depuis 1947, mais accompagne l'humanité depuis bien plus longtemps.
Hein.
Notamment à la vague d'airships
aux
États-Unis à la fin des années 1890.
Ouais. Alors, pour finir, donc, je le précise à nos auditeurs, la seconde partie de votre enquête paraîtra en septembre de cette année. Elle portera sur la recherche publique. Alors, les têtes de chapitre sont éloquents et on attend avec impatience de vous lire. Il y a donc la prise en compte de la sécurité nationale, le monde politique et la question OVNI, l'action de la défense et de l'intérieur, surveillance, renseignement, protection du secret, désinformation. J'arrête là. Alors, si vous le souhaitez, on vous invitera à parler de tout cela au moment de la sortie de ce second tome. Mais je me permets tout de même de vous poser une question pour faire patienter nos auditeurs jusqu'en septembre. Est-ce que le monde du renseignement s'intéresse aux ovnis en France?
On peut le dire vraiment de manière assurée. Et c'est ce qui fait dire que la défense, en tout cas le renseignement à l'intérieur, mène une veille là-dessus. Le monde du renseignement est pleinement investi... Dans la surveillance des groupes ufologiques et dans la question OVNI. Je prends des exemples qui me viennent en tête. Par exemple, on a un ufologue méconnu, là encore, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais qui a beaucoup agi, c'est René Faudrin. Donc René Faudrin, lui, il a créé un certain nombre de groupements, essentiellement dans l'Est de la France, et lui, par exemple, il disait qu'il avait été interrogé par les services, par les renseignements généraux. Sur ses activités. Bon, il était opérateur de surveillance aérienne, donc ça a gêné un peu sa hiérarchie. C'est un militaire, hein, René Faudrin. Voilà. Par ailleurs, dans la plupart des groupements, on retrouve quantité d'anciens agents des services de renseignement qui se disent tels, hein, qui le révèlent, ou d'anciens militaires, ou de militaires qui sont toujours en service. D'anciens agents secrets comme François Garde, hein, qui était en fait le pseudo de Henri Julien, étaient d'anciens agents de renseignement et ont adhéré à des associations du sud de la France. On avait par exemple Marcel Pagès donc, qui était un médecin de Perpignan et qui était aussi passionné de physique, hein, je ne sais pas s'il n'était pas ingénieur également. Dans sa biographie qui est parue chez Jean Riffa, Femme et Homme du Roussillon, donc il indique que Marcel Pagès, il était surveillé par des agents de la DST, qu'il avait des gardes du corps. Donc, Marcel Pagès, il faisait de la rétro-ingénierie. Il essayait de reproduire l'antigravité. Il était adhérent au GEPA. Et donc, à partir des rapports d'observation, il essayait de construire un engin, comme il l'appelait, antigravifique. Et donc, il avait des gardes du corps. Il était surveillé par la DST. Il le rapporte. Jean-Pierre Petit signale également qu'il reçoit la visite de la DST, Henri Chaloupec par deux fois est aussi visité par la DST. Donc, si vous voulez, les services de renseignement, ils ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de surveiller ces mouvements, hein, pour pas qu'il y ait de dérives sectaires, surveiller des dangers de cette nature. C'est aussi prévenir, on est en pleine guerre froide, hein, la menace communiste. Donc souvent, enfin, si on peut parler de menace communiste, entre guillemets, je veux dire. Et donc, ils interrogent Henri Chaloupec sur ses contacts avec les communistes, etc. Et probablement aussi récolter du renseignement sur ces phénomènes et après, de diffuser ce renseignement à qui, on ne sait pas. Voilà, donc si vous voulez, et je pourrais vous citer encore plein d'exemples, hein, je les cite dans mon livre, le renseignement est omniprésent, le renseignement et l'armée, hein, parce qu'on a aussi beaucoup beaucoup de militaires dans les campements, beaucoup, au GEPA, on en a par exemple, on en a plein. À LDLN également, on a un ancien de la DST qui travaille au bureau de LDLN, donc c'est pas anodin. On est dans la même situation qu'aux États-Unis, où les groupements sont presque quasi noyautés par les services de renseignement et les services de l'armée. Aux États-Unis, par exemple, dans certains groupements, ont eu comme directeur l'ancien directeur de la CIA. Ouais. Donc là aussi, on peut parler de coïncidence, mais bon, il est difficile quand même de voir autant de coïncidences. Donc voilà, ça j'en fais mention dans mon livre, dans le deuxième tome.
Une toute dernière question, je pense notamment au film Le Secret américain, qui a été, je crois, réalisé par un agent ou un ancien agent des renseignements, Monsieur Gelly. Ce film a été projeté à l'Assemblée nationale en projection semi-privée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce genre d'initiative ?
Eh ben, ça ressemble un peu aux initiatives de type rapport Cometa,
oui.
Des structures publiques ou semi-publiques, en tout cas très liées au service public, jettent un pavé dans la mare. Oui. Jettent un pavé dans la mare et probablement, à mon avis, hein, probablement pour maintenir toujours une certaine pression et participer, si vous voulez, à la pression pour l'ouverture des dossiers classifiés américains. Je pense aussi, par exemple, à Yves Sillard, hein, qui en 2004, Yves Sillard, ancien directeur du CNES et de l'IFREMER aussi, qui en 2004, sur RFI, donc, est interviewé et déclare les Américains en disent très peu sur le sujet et à mon avis, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ne disent ils devraient partager leurs secrets avec le reste de l'humanité dans un intérêt global. Donc je crois que c'est ça en fait, c'est vraiment, si vous voulez, la volonté que les enquêtes et les connaissances sur la question s'internationalisent dans un but d'intérêt global. Et je pense que c'est un peu l'objectif de telle démarche. Les Américains, par contre, n'ont pas l'air du tout d'accord avec ça, et pour l'instant, c'est le mutisme absolu du côté de l'autre côté de l'Atlantique.
Manuel Virant, un grand merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « OVNI sur la France des années 1940 à nos jours », publié aux éditions Le Temps Présent. C'est un ouvrage mais vraiment très, très intéressant, passionnant, même pour tout dire. Et puis donc, on attend à la rentrée le deuxième tome de cet ouvrage. Merci beaucoup.
Merci à vous. Johnny could only sing one note, and the note he sang was this.
Ah! Poor Johnny, one note, sang out with gusto, and just overlorded the place. Poor Johnny, one note, yelled willy-nilly until he was blue in the face. For holding one note was his ace. Couldn't hear the brass, couldn't hear the drum. He was in a class by himself by gum. Poor Johnny, one note, not in Aida. Indeed, a great chance to be brave.
He took his one note, how like the north wind brought forth wind that made critics rave.
While Bertie turned round in his grave, couldn't hear the flute or the big trombone. Everyone was new.
Johnny stood alone.
Cats a
and dogs stopped yapping. Lions in the zoo all were jealous of Johnny's.